Laudetur Jesus Christus.
Une nouvelle nuit tranquille pour le pape François. Au 11e jour d'hospitalisation, le Saint-Père présente un cadre clinique complexe. Une messe à l'intercession spéciale pour sa santé a eu lieu hier après-midi à Rome et les mots de soutien continuent d'affluer du monde entier. Des milliers de diacres réunis hier dans la basilique Saint-Pierre à l'occasion du 4e jubilé thématique de l'année sainte. Dans l'homélie du pape lue par le propréfet du dicastère pour l'évangélisation, François invite les diacres à exercer leur ministère dans la gratuité. Il y a 3 ans, jour pour jour, les troupes russes envahissaient l'Ukraine et annexaient 4 régions, bouleversant le quotidien du pays mais aussi de l'ensemble du continent européen. Plusieurs dirigeants étrangers se retrouvent à Kiev ce lundi pour un sommet. Par ailleurs, les évêques ukrainiens organisent ce lundi une journée de prière pour la paix. Nous entendrons l'évêque auxiliaire latin de Kiev, Jitomir, dans notre dossier en fin de journal. Et puis, défaite électorale historique pour les sociodémocrates en Allemagne, tandis que les conservateurs arrivent en tête et l'extrême droite confirme sa percée.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. 11e jour d'hospitalisation du pape au Gemelli. Hier soir, le dernier bulletin de santé relevait que le cadre clinique restait complexe. Le pape François a toujours recours à l'oxygénothérapie, mais les médecins précisent, Jean-Charles Puzolu, qu'il n'a pas fait de nouvelles crises respiratoires.
Effectivement, et ce matin, la salle de presse a, comme à son habitude, donné les dernières informations. La nuit s'est bien déroulée. François a dormi et se repose. Disons que ces informations en provenance de l'hôpital rassurent un petit peu après la conférence de presse de l'équipe médicale du Gemelli samedi, révélant le recours à une oxygénation à haut débit et des transfusions sanguines pour contrer une thrombocytopénie. Hier encore, le pape a eu recours à 2 unités de concentré globulaire qui ont eu un effet bénéfique sur le taux d'hémoglobine. Des examens effectués dimanche ont cependant montré aussi un début d'insuffisance rénale, mais celle-ci est sous contrôle, affirme le communiqué du Saint-Siège. Le Saint-Père continue d'avoir recours à l'oxygène par canule nasale. Le cadre clinique reste complexe en général et dans l'attente que les thérapies pharmacologiques donnent des résultats, les médecins maintiennent un pronostic réservé. En tous les cas, depuis le début de son hospitalisation, le pape reste alerte, nous dit-on. Il travaille en lien avec ses proches collaborateurs, lit les journaux. Hier matin, il a aussi assisté à la messe avec les personnes qui en ce moment prennent soin de lui au Gemelli.
Jean-Charles Puzolu. Toutes les informations concernant la santé du pape François sont bien sûr à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Malgré tout, les célébrations de l'année sainte se poursuivent au Vatican. 5000 fidèles, dont 2500 diacres, ont pris part à la messe célébrée hier en la basilique Saint-Pierre pour le jubilé des diacres, 4e jubilé thématique de l'année. Après les communicants, les forces armées et les artistes, place aux serviteurs de Dieu. Lors de cette célébration eucharistique de 2h30, l'homélie du pape a été lue par Monseigneur Rino Fisichella, le propréfet du dicastère pour l'évangélisation, également chargé de l'organisation du jubilé, a souhaité en préambule rappeler à chacun la proximité du souverain pontife présent au milieu de tous dans la prière. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
C'est une messe d'ordination diaconale très fervente, priante et recueillie qui s'est tenue sous la coupole étoilée de la basilique Saint-Pierre. 23 nouveaux diacres des 4 coins du monde, dont un français, ont été ordonnés par le délégué du pape à cette messe, Monseigneur Fisichella, qui a lu les mots écrits par François pour l'occasion. L'évêque de Rome insiste en particulier sur 3 d'entre eux, essentiels aux diacres, le pardon, le service désintéressé et la communion dans une démarche gratuite. Dans un monde où la haine prédomine, pardonner signifie, selon François, préparer l'avenir, une maison sûre et accueillante. Aimez vos ennemis enseigne l'évangile du jour, prodiguant un autre conseil, celui de faire le bien sans rien espérer en retour. Le pape estime que le diacre devient par là sculpteur et peintre du visage miséricordieux du Père.
Accompagnatelo il più possibile con un sorriso, senza lamentarvi, senza cercare riconoscimenti.
Accompagnez votre mission avec le sourire, sans plainte ni quête de reconnaissance, les enjoint l'évêque de Rome, avant d'en venir à la gratitude. Gratuité comme source de communion. Donner sans rien demander en retour, unis, créer des liens parce que cela exprime et nourrit une communauté qui n'a d'autre fin que le don de soi et le bien des personnes. Et l'on abandonne ainsi notre parure terrestre pour revêtir la céleste.
Un compte-rendu signé Delphine Allaire. Également à la une de ce lundi 24 février, le troisième anniversaire de l'offensive militaire russe en Ukraine. Un anniversaire douloureux et honteux pour toute l'humanité, souligne le pape François dans un texte diffusé hier pour l'Angélus. Les évêques latins ukrainiens appellent à une journée de prière et de jeûne intense ce lundi pour le pays. Nous y reviendrons dans notre dossier à la fin de ce journal. Des commémorations pour demander une paix juste qui respecterait l'intégrité territoriale sont également prévues aujourd'hui partout en Ukraine et en Europe, alors que plusieurs dirigeants de l'Union européenne sont arrivés à Kiev pour participer à un sommet décisif. Marine Henriot.
Oui Alexandra, car ce n'est pas seulement le destin de l'Ukraine qui est en jeu, c'est celui de l'Europe. Ce sont les mots d'Ursula von der Leyen lors de son arrivée il y a quelques minutes à Kiev en train, aux côtés du Premier ministre portugais. En tout, 13 dirigeants européens sont attendus aujourd'hui dans la capitale ukrainienne. 24 participeront à ce sommet à distance. Ces dernières heures, on a vu les Européens accorder leur position sur le dossier ukrainien. Il faut dire que si cette guerre est à leur porte, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses négociations directes avec Vladimir Poutine, la voix de l'UE semble peser peu. Hier soir, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a mis sa propre position dans la balance. Il dit être prêt à quitter son poste à condition que l'Ukraine adhère à l'OTAN et que la Russie cesse toute agression. Mais l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique est irréaliste pour Washington, qui semble également moins attaché que les Européens et les Nations Unies à protéger l'intégrité territoriale de l'Ukraine lors d'un éventuel cessez-le-feu. C'est donc pour inverser la tendance que les Européens se mobilisent. Un sommet spécial aura lieu également le 6 mars au Portugal et la chef de la diplomatie européenne vient d'annoncer qu'elle se rendra demain aux États-Unis.
Merci Marine Henriot. Le président français lui est arrivé hier soir à Washington pour un entretien en tête-à-tête avec Donald Trump. Emmanuel Macron souhaite se faire le porte-parole des Européens, aussi bien membres de l'UE que de l'OTAN, et doit présenter ce lundi des propositions d'action au président américain afin de conjurer, je cite, la menace russe, selon l'un des conseillers du dirigeant français. Le président français qui félicite par ailleurs le chef des conservateurs allemands Friedrich Merz pour la victoire de son parti aux élections législatives hier. Le scrutin a confirmé hier ce que les sondages pronostiquaient. Les chrétiens démocrates sont arrivés en tête et l'extrême droite poursuit sa montée. Pour autant, Friedrich Merz a déclaré refuser toute alliance avec l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne. À Berlin, les précisions de Delphine Nerbollier.
Friedrich Merz ne cachait pas sa joie hier à l'annonce des premiers résultats, même si son parti fait un score moindre que voulu avec 28,5% des suffrages. Il sera chargé de former une coalition et sera très certainement le futur chancelier. L'extrême droite, elle, confirme son ascension avec plus de 20% des voix, un niveau historique et un doublement par rapport à 2021. Hier soir, l'AfD tendait la main aux chrétiens démocrates pour former un gouvernement, une main tendue que Friedrich Merz a refusée. Sa seule option sera donc une grande coalition avec le SPD. Les sociaux-démocrates du chancelier sortant Olaf Scholz sont les grands perdants de cette élection. Ils reculent de presque 10 points et encaissent une défaite historique, avec 16% seulement des suffrages. Olaf Scholz, mal aimé en tant que chancelier, a déjà annoncé qu'il ne sera pas ministre dans un gouvernement mené par son rival. Les écologistes, eux, limitent la casse après 3 années passées au gouvernement, tandis que la gauche radicale que l'on croyait moribonde réalise un exploit avec 8,5% des suffrages. En revanche, les libéraux du FDP sont sanctionnés, ils n'entrent pas au Bundestag, ni le mouvement populiste de Sarah Wagenknecht. Berlin, Delphine Nerbollier pour Radio Vatican.
Une conférence de dialogue national débute ce lundi à Damas. Les nouvelles autorités syriennes, dominées par les islamistes, ont formé mi-février un comité composé de 7 personnes, dont 2 femmes chargées de préparer cette conférence. Elle doit émettre des recommandations qui serviront de base pour la déclaration constitutionnelle, l'identité économique et le plan de réforme des institutions selon le comité. Le cardinal Cerny de retour à Rome ce lundi après 5 jours de mission au Liban. Le préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral s'est rendu ces derniers jours dans les villages chrétiens bombardés au sud du pays. Pour son dernier jour de mission hier, le cardinal s'est rendu sur le site du port de Beyrouth, dont la double explosion en 2020 a endommagé la capitale et tué plus de 260 personnes. Il a rencontré plusieurs membres des familles des victimes. « Les évêques ukrainiens appellent ce lundi à une journée de prière pour leur pays, meurtri par 3 ans de guerre. L'offensive menée par Moscou a fait des milliers de morts, des millions de réfugiés et détruit des dizaines de milliers d'infrastructures vitales au pays. Depuis le début du conflit, l'Église ukrainienne peut compter sur la solidarité de toute l'Église catholique qui non seulement prie pour la paix, mais apporte une aide concrète à une population dans l'épreuve. Même si cette aide tend à diminuer lentement, l'évêque auxiliaire latin de Kiev, Jytomyr, Mgr Oleksandr Yazlovetsky, exprime sa reconnaissance pour le soutien à la fois spirituel, pastoral et matériel qui continue de parvenir aux Ukrainiens. On l'écoute.
Prima di tutto con un sentimento di grande gratitudine. E questa gratitudine si sente.
Tout d'abord, nous avons un sentiment de grande gratitude envers Dieu. Nous ressentons cette gratitude car nous voyons que Dieu nous aide. Nous voyons que la prière porte ses fruits. De nombreux chrétiens prient pour nous, le Saint-Père prie pour nous, et nous voyons que Dieu entend ces prières et qu'il nous vient en aide. Nos fidèles ont vécu ces 3 années en plaçant leur espérance dans le Seigneur. Ce sentiment de grande gratitude envers Dieu s'accompagne également d'un sentiment de grande injustice, et parfois, pour dire la vérité, de désespoir, car des dizaines de drones, parfois des missiles balistiques, attaquent nos villes presque chaque nuit.
Vous évoquez le bruit des bombes qui frappent chaque nuit ou presque le territoire ukrainien. Existe-t-il un bilan relatif au nombre de victimes ?
Nous ne parlons pas beaucoup de statistiques, mais il y a quelques jours, notre président Zelensky a parlé de 46 000 soldats ukrainiens tués dans cette guerre, de plus de 300 000 soldats blessés et des dizaines de milliers de personnes disparues ou retenues prisonnières en Russie. Même au sein de la population civile, on dénombre environ 10 000 morts et près de 18 000 blessés. On ne compte pas non plus le nombre de civils tués dans les zones occupées, par exemple à Mariupol. La Russie a aussi enlevé et déporté 19 500 enfants ukrainiens. Depuis le début de la guerre, 650 de ces enfants ont été tués et 1 600 ont subi des blessures plus ou moins graves. Depuis le début de la guerre, 650 enfants ukrainiens ont été tués et 1 600 ont subi des blessures plus ou moins graves.
Comment l'Église a-t-elle préparé cette journée ?
Les évêques demandent que cette journée du 24 février soit une journée de prière et de jeûne intense. Dans leur appel, les évêques rappellent que le pape François a consacré cette année jubilaire au thème de l'espérance. Les évêques expriment leur gratitude aux militaires ukrainiens qui protègent notre pays. Ils adressent un message de solidarité aux familles des militaires, aux assistants, aux médecins, aux blessés et aux Ukrainiens qui sont contraints de vivre à l'étranger. Ensuite, les évêques rappellent avec gratitude aussi les efforts diplomatiques du Saint-Siège et du pape François qui ne se lassent jamais d'inviter le monde à prier pour l'Ukraine.
Quels sont les plus grands défis humanitaires en Ukraine en ce moment et comment Caritas Spes essaie-t-elle d'aider les gens à faire face à ces défis ?
À l'heure actuelle, nous avons environ 54 centres d'aide répartis dans tout le pays, par l'intermédiaire desquels nous essayons de distribuer de la nourriture, des produits de première nécessité, des produits d'hygiène. On essaie également d'apporter un soutien psychologique, on essaie d'aider avec des bons d'achat de produits alimentaires ou de médicaments. En particulier, on essaie d'organiser des vacances pour les enfants, tant en Ukraine d'ailleurs qu'à l'étranger. Nous le faisons en priorité pour les enfants de familles de militaires. Nous essayons de réparer les maisons et les appartements détruits qui se trouvent à proximité des zones de combat. Car aujourd'hui encore, de nombreuses familles vivent dans ces régions. Certaines qui avaient fui sont même revenues. Ensuite, nous poursuivons les mêmes projets qu'avant la guerre, comme le soutien aux enfants handicapés qui, pour la plupart, ont été abandonnés pendant la guerre.
Mgr Oleksandr Yazlovetsky, évêque auxiliaire latin de Kiev, Jytomyr, était ce matin l'invité de Radio Vatican à l'occasion du 3e anniversaire de l'offensive militaire russe en Ukraine. Un anniversaire douloureux et honteux pour toute l'humanité, soulignait le pape François dans un texte diffusé hier pour l'Angélus. Les évêques latins ukrainiens appellent donc aujourd'hui à une journée de prière et de jeûne intense pour le pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est ici que s'achève ce journal. Merci pour votre écoute et votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité en langue française du pape, du Vatican, de l'Église et du monde revient à 13h heure de Rome. Et d'ici là, belle matinée à toutes et à tous.